Vous êtes sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
La menace d'un troisième confinement, elle est là, et oui, elle est bien visible en tout cas. On a écouté les propos d'Olivier Véran hier, qui est comme beaucoup d'élus aussi, hein, on l'a entendu en région, qui commence à être pessimiste après cette période de Noël, où on a certainement abusé dans certains cas, où on n'a pas pu faire autrement que se retrouver peut-être à plus que 6 un soir à table de Noël. Thierry est avec nous en Charente pour vous. C'est très clair, on va revenir à un confinement très rapidement dès le 4 janvier.
Je dirais peut-être pas dès le 4 janvier, je sais pas, j'ai pas la date et puis je suis pas spécialiste, mais je pense que on va pas y échapper. Je pense pas un confinement comme on a pu connaître en novembre ou encore pire comme en mars.
Comme en mars, oui.
Parce que sans être égoïste, pourquoi confiner l'ouest de la France où il y a quasiment pas de cas, où ça se passe relativement bien, alors que à l'est de la France c'est un peu plus catastrophique.
Vous voulez dire un région par région, comme à l'époque où on n'avait pas le droit de sortir, ou un quartier par quartier, comme en Australie, ça serait une solution?
Ouais, je pense peut-être pas une solution. Je vous dis, je suis pas spécialiste.
Non, j'entends bien, mais j'écoute
votre avis. Ce qui me semblerait peut-être logique, et puis aussi pour parce que la difficulté, j'ai l'impression, dans cette crise, c'est le curseur économique sanitaire.
Oui.
Parce que il faut faire attention de pas mettre les hôpitaux dans des situations catastrophiques.
Parce qu'on dépasse.
Et d'un autre côté.
Souvent on dépasse hein, plus de la moitié des lits de réanimation.
Et puis il n'y a pas que des maladies du Covid dans les hôpitaux. Il faut s'occuper aussi de ceux qui ont des accidents de la route, des autres pathologies un peu lourdes. Et puis d'un autre côté, il y a l'économie où là, ça devient par contre catastrophique. Et je pense que les effets vont être à long terme et vont être catastrophiques.
Parce que pour moi, troisième, déjà c'est compliqué pour 2020. Mais s'il y a un troisième confinement avec
vous rendez compte,
avec des commerces non essentiels qui seraient fermés, par exemple.
Non, mais sans parler déjà de ça, déjà le mot non essentiel, déjà je comprends même pas. Mais les restaurateurs, le monde du spectacle, qui depuis des mois n'ont plus rien. Et on leur dit, ça sera le 20 janvier. Et là, on est en train de parler de confinement, peut-être en début janvier. Mais vous imaginez, c'est pour.
On n'oublie pas qu'il y a des aides. Il y a des aides, hein, comme pour les stations de ski. Non, je suis d'accord avec
Christophe,
vous.
Des aides. Un artisan, je l'ai été, moi, par le passé, artisan. Vous avez des aides pour faire vivre votre entreprise. Mais vous, en tant que personne, pour nourrir votre famille, vos enfants, si vous n'avez pas votre activité, vous n'avez pas de salaire.
Oui, après.
Et eux, ils n'ont pas le chômage. Ils ont rien. Ils ont des aides pour tenir leur entreprise, pour pas qu'elle coule définitivement.
C'est ça.
Mais s'ils ont pas d'activité, ils ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Les gens ont zéro.
Après.
On peut pas prendre cas par cas. Il faut trouver la solution.
Après, l'État a toujours été très très présent depuis le début de cette crise. On est bien d'accord tous ensemble sur les crises sanitaires, dossier par dossier, entreprise par entreprise. Vous avez raison, Thierry. Est-ce que vous avez je vous demande pas d'avoir une solution miracle, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez pas qu'il faut quand même fermer un peu plus encore quand on voit les chiffres qui vont certainement augmenter après Noël? Vous pensez
de voir
personne après dans la rue à 20h, ça semble assez incroyable, c'est ce qu'on va arriver, à faire, j'espère. Hein.
Ouais, moi je serais déjà plus pour qu'on se calme un peu tous là.
Oui.
Et que déjà sur les plateaux télé, ils arrêtent tous de venir se contredire, parce que nous, en tant que lambda qui ne connaissons rien en termes médicaux et tout, déjà quand vous avez des spécialistes qui disent pas les mêmes choses, qui se contredisent, vous pouvez être que défiant après vis-à-vis de ça. Et donc ça monte les gens les uns contre les autres.
Mais quelqu'un a-t-il la bonne réponse? C'est ça le problème aujourd'hui.
Mais personne là. Et donc la seule solution aujourd'hui qui nous laisse voir cette petite lumière au bout du tunnel, c'est le vaccin. On n'a rien d'autre aujourd'hui. La moins pire, c'est ça. Donc pourquoi
pas. Et les gens ne veulent pas tous se faire vacciner, vous le savez bien. Parce que
Le premier, je disais que j'étais pas pour, j'étais plus pour un traitement. Mais si vraiment, il faut arrêter à un moment, je veux dire, on va pas nous injecter n'importe quoi dans le corps, on est quand même pas non plus dans un film de science-fiction.
Non, je pense que tous les contrôles ont été faits. Et heureusement, sur la scène européenne, avec toutes ces mesures qui ont été mises en place.
Je pense que le citoyen lambda français comme moi, on est un peu réticent parce qu'il est pas de chez nous, on est un peu chauvin. Ça serait un vaccin Pasteur, je pense qu'il y aurait moins de réticence.
Vous pensez qu'il y a du chauvinisme dans le vaccin, vous?
Je pense que oui.
Moi, je pense que c'est plutôt.
Je pense que l'histoire qu'il vient des États-Unis, qu'il faut.
Ah bon,
il
serait français, 100% français, naturel, bio. J'arrive pas à comprendre.
C'est que là, il est américain et on nous dit oui, pour qu'il soit distribué, il faut qu'il soit tenu à moins 80 degrés. Alors que Pasteur, on parle d'un vaccin qui serait moins contraignant dans la distribution. C'est dans ce sens-là.
Ah, après, d'accord, ouais, parce que le côté patriotique, ouais. Moi, voilà.
Non, pas. Mais bon, il y a un petit peu aussi, je pense qu'il ne faut pas.
Ouais, si on vous dit que votre vaccin qui vient des États-Unis est à 99% fiable et que le français n'est qu'à 80-85, vous choisissez quoi?
Alors les chiffres, j'ai une réponse toute faite, mais qui veut peut-être rien dire. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est le laboratoire qui annonce ces chiffres. Est-ce qu'on a une étude extérieure?
Non, pour l'instant non. Mais c'est pour ça que vous avez vu, on y va doucement. On a fait 13 personnes hier. On y va. Pour l'instant, on sait que. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de rejet.
Ouais. Ce que je voudrais pas, c'est que sur le vaccin, on repart sur des délires comme on a pu faire sur le Covid, de dire tout et n'importe quoi. Après, il y a les complotistes qui vont s'y mettre. Enfin, ça va devenir n'importe quoi.
On rappelle que se faire vacciner en France, c'est une initiative personnelle, mais aujourd'hui, c'est quand même un acte de protection collective qu'il faudrait engendrer.
Écoutez, il y a des gens qui avaient refusé certains vaccins. Il y a 2-3 ans, dans notre région, du côté de Bordeaux, on a des jeunes de moins de 20 ans qui sont morts de la rougeole parce qu'ils n'étaient pas vaccinés.
Donc
la vaccination, c'est quand même une arme qui a fait ses preuves.
Et Thierry, tiens, j'ai une question qui me vient tout de suite en vous écoutant, et je pense qu'il y a peut-être d'autres auditeurs qui voudront réagir sur le 3210 ce midi. Est-ce que vous êtes fait vacciner la dernière fois? La dernière fois que vous êtes fait vacciner, c'était quand?
La dernière fois que je me suis fait vacciner, c'était pour la grossesse de ma femme.
D'accord, très bien.
La naissance de mon enfant.
Très bien, un événement. Mais vous pensez que tous les gens se font toujours vacciner tous les 10 ans, comme à une époque?
Alors moi, je vais vous dire, c'est très simple. Peut-être que vous, c'est la même chose. Moi, j'ai un référent, c'est mon médecin de famille. Si mon médecin de famille me dit, il faut faire ça, je ferai ça.
Ouais, mais c'est bien d'avoir cette confiance.
C'est ma personne de confiance.
Oui,
une radio, je lui dis pas, pourquoi je vais faire une radio? J'ai rien, parce que je suis médecin et je te le dis.
Non, mais je suis en train de penser à ça. Je pense que les gens qui se font vacciner, ou on a pris l'habitude de se faire vacciner quand on était petit, après, peut-être pour certains qui sont allés à l'armée, est-ce que les gens gardaient, est-ce qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, pour les vaccins, au bout de 10 ans, pour pas attraper les vieilles maladies d'antan, alors qu'aujourd'hui, on est en pleine période de Covid, est-ce que les gens ont leur carnet de santé à jour? C'est ce que je me pose comme question aujourd'hui.
La question que je me pose, c'est est-ce que beaucoup de gens ne mélangent pas un peu tout et qu'il n'y a pas une grosse défiance du gouvernement actuel, et quoi que dise ce gouvernement, quoi qu'il nous oriente, ça sera forcément rejeté.
Oui, mais
j'ai un peu ce sentiment-là. J'ai un peu ce sentiment d'une grosse défiance sur le tout et le n'importe quoi.
Mais le problème, le gouvernement, il est peut-être un peu comme nous en ce moment. Il est un peu perdu par rapport aux chiffres et aux divers avis. Et c'est pour ça qu'il y a des conseils scientifiques comme demain, on rappelle.
Oui, c'est pour ça que des fois, certaines personnes du gouvernement feraient mieux de se taire que de venir raconter n'importe quoi.
Monde de communication comme le nôtre, monsieur Thierry, rien n'est simple.
Ah oui.
Thierry Deschamps, qui est avec nous sur le 3210, on vous dit à très bientôt, évidemment, sur l'antenne d'RTL. Merci d'avoir témoigné. Vous avez la parole pendant les fêtes. Jusqu'à 13h30, courte pause. Et ensuite, c'est Lydia qui sera avec nous.
Les auditeurs ont la parole
dans RTL Midi. Les auditeurs ont la parole.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Jusqu'à 13h30 aujourd'hui, pendant les vacances de Pascal Pro. On a le plaisir de vous retrouver évidemment sur le 3210 et sur les réseaux sociaux. Lydia est avec nous après Thierry. Bonjour Lydia.
Bonjour. Je voulais donc...
Dites-moi.
Intervenir pour ces trois gendarmes là qui sont décédés.
Oui.
Je suis très touchée. Vous voyez, j'en ai encore des larmes aux yeux. Déjà, je voulais présenter mes condoléances à leur famille. Je sais ce qu'elles endurent et c'est très dur. Très dur.
Il y a quatre enfants qui sont orphelins aujourd'hui.
Et quatre enfants, c'est très très dur. Et moi, je suis aussi mère d'un policier.
D'un policier.
Oui, je suis mère d'un policier, je suis souvent avec la peur au ventre, Et je voulais que mon fils m'entende. Je voulais lui dire, excusez-moi, je suis un petit peu...
Prenez votre temps. Un petit peu émue. Mais je vous comprends.
Je voulais qu'il m'entende, mon fils. Je voulais lui dire comment j'ai été fière de lui, fière de ce qu'il fait. Lui aussi, quand il était en police secours, il a sauvé des vies.
Oui.
Et tous les jours, il supporte beaucoup de choses.
Comme toutes ces professions de gendarme, de pompier, d'assistant.
Voilà. C'est vrai que la population, dernièrement, a eu une très mauvaise image de la police, avec ce qui s'est passé avec ces quatre personnes qui ont déconné.
On rappelle, avec l'interpellation plutôt musclée, l'intervention chez un producteur de musique.
Voilà, tout à fait. Mais il n'y a pas que les policiers, ils ne font pas que ça. C'est sûr qu'il y a des bavures, c'est sûr. Mais bon, un policier, il n'est pas là que pour verbaliser.
Oui, puis nous sommes dans une période compliquée depuis les attentats. C'est sûr qu'en France, on le sait, on est encore plus vigilant.
Voilà. Mais un policier, il sauve des vies. C'est le gardien de la paix. Un policier, c'est un gardien de la paix.
N'oublions jamais ce mot d'importance.
Voilà. C'est un gardien de la paix. Il doit sauver des vies. Et c'est pour ça que je voulais rendre, excusez-moi, hein, mais je voulais rendre hommage à mon fils. Je voulais qu'ils m'entendent. Il y en a, quand on leur dit, ils ont honte de dire mon fils est policier, mon mari est policier. Eh ben moi, je n'ai pas honte. Hein. Je suis fière. Hein. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, les policiers ont besoin d'être encouragés, d'être motivés. Hein. Je sais que M. Darmanin fait quand même le maximum.
Vous sentez que les policiers, les gendarmes sont soutenus aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur que...
Moi, je pense.
Oui,
je
avec
pense.
Florence Parly, la ministre des Armées, pour les gendarmes aujourd'hui.
Moi, je pense. Je pense qu'ils font le maximum. Hein. Bon, après, malheureusement, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile.
Non, non.
Mais je sais que... Alors, il y a beaucoup de policiers qui se suicident. Hein.
Il y a eu une grande période, oui, effectivement.
Hein, voilà, il y a des enfants qui ont peur de dire « papa est policier ». Mais moi, non, je n'ai pas peur. Je
Lydia,
suis très contente.
Quand votre fils est venu vous en parler, c'était à quelle époque? C'était une vocation? C'était après 18 ans, après des études ou autre? Il s'est dit...
Après des études, bon, il ne devait pas... Quand il était petit, il disait toujours « je vais être gendarme, je vais être policier ». Bon, après, il a fait d'autres études. Normalement, il devait faire du commerce international.
D'accord.
Il était parti en Angleterre. Dès qu'il est rentré, bon, il a passé le concours, enfin, etc.
D'accord, et vous l'avez facilement accepté? Quelle était votre réaction au moment où vous avez dit « maman » ?«
Oui, j'ai facilement accepté. J'ai facilement accepté. Je sais que... il fait le maximum. Lui, pour lui, c'est le gardien de la paix. C'est le gardien de la paix. Il a sauvé des vies. Comme je dis souvent, on donne la Légion d'honneur à des gens qui ne font rien, rien de spécial. Moi qui ai travaillé dans un grand ministère, je peux vous le dire. Je sais que des gens ont eu la Légion d'honneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait de spécial.
C'est votre sentiment, Lydia, bien sûr. Après, tout le monde défend évidemment son corps de métier. Mais en vous écoutant, on pense très fort évidemment aux familles hein, des victimes qui intervenaient sur un drame familial. Donc voilà, comme ça arrive très souvent en pleine nuit, ils ne pensaient pas être agressés par quelqu'un qui était autant équipé de matériel et qui s'est suicidé. Faut-il le rappeler après, hein, après ce drame familial. J'aimerais citer encore une fois les noms quand même de ces trois gendarmes. Le brigadier Arnaud Malbel, 21 ans. Le lieutenant Cyril Morel ou encore l'adjudant Rémi Dupuis, qui nous ont donc quitté cette soirée de mardi dernier, entre mardi et mercredi.
J'en ai les larmes aux yeux et il reste dans mon cœur, dans mes prières.
Je comprends, et on comprend
voilà,
tous.
C'est ce que je voulais dire.
On s'associe à votre émotion. Et puis Amber, ça va commencer dans une petite demi-heure maintenant, cet hommage.
Exactement.
Qui sera important. Et il y aura la Légion d'honneur, évidemment, pour ces trois gendarmes.
Oui, tout à fait. Et je répète encore, je suis fière de mon fils. Si je peux dire son prénom, je peux le dire à l'antenne.
Dites-moi.
Alexandre.
Très bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Lydia, d'avoir témoigné aujourd'hui dans les auditeurs la parole. C'est jusqu'à 13h30 avant de retrouver Confidentiel avec Jean-François Richard. Merci à vous, Lydia. Très belle journée à vous aujourd'hui dans un moment d'intense émotion, on l'a bien compris. Il est 13h22, c'est votre émission. Réagissez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, RTL Midi sur Twitter. 3210 3210.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Le confinement, ça vous intéresse évidemment, tout comme le cas de Neymar. On va en parler Kevin dans un instant, mais j'aimerais retrouver Sophie qui est sur le standard, sur le 3210. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour.
Alors vous, c'est plutôt le troisième confinement qui vous inquiète ou vous trouvez plutôt inéluctable, voire logique donc?
Ben moi, je le trouve surtout très inquiétant. Donc j'espère qu'effectivement, il n'y aura pas de troisième confinement parce qu'effectivement, je ne sais pas combien de gens mourront du Covid. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui mourront soit de désespoir d'avoir perdu leur travail ou malheureusement de rien avoir à la fin du mois.
Toutes les conséquences inhérentes à la crise sanitaire, bien sûr.
C'est surtout ça qui m'inquiète. Et moi, ce qui m'agace profondément une fois de plus, c'est les incohérences que l'on vit. Dernière incohérence du jour, on sait pertinemment qu'il y a une nouvelle souche donc qui vient d'apparaître en Angleterre.
Oui.
Donc là, il y a beaucoup d'Anglais qui sont partis skier en Suisse. Comme il y avait effectivement, ils devaient être en quarantaine, et ben ils ont quitté la Suisse pour venir skier en France.
On vous a raconté ça ce matin avec Dominique Tenza notamment.
Je trouve ça insupportable parce que je me dis qu'une fois de plus, c'est encore nous qui allons payer les conséquences. On se confine, on essaie de suivre les recommandations du gouvernement. On fait Noël avec un minimum de personnes. On porte le masque en permanence. Et puis, les incohérences continuent. Comme lors du premier confinement, on a continué de faire rentrer des ordres chinois.
C'est très énervant, ce non-respect des mesures. C'est plus qu'agaçant, effectivement, parce que tout le monde a envie. Si vous aimez le ski, moi le premier, je serais bien en Suisse à aller skier. Mais même pas une seconde. Non, voilà, on y pense par rapport à nos proches. Même pas une seconde.
Mais c'est surtout ce qui est très agaçant. C'est dire pourquoi la Suisse prend des mesures qui, moi, me semblent en plus.
Elle n'est pas dans l'Union européenne.
Une vraie passoire. Et total des comptes, c'est encore nous qui allons.
Non, mais déjà, l'Europe, heureusement, Sophie a réussi à s'accorder en disant on n'ouvre pas les remontées mécaniques. Les Suisses, c'est un prix entre deux feux. Alors, on ne sait pas s'ils ont un problème économique ou autre, mais c'est sûr que de voir des Anglais qui viennent skier, bon, en plein Brexit, hein, en plus, qui viennent skier en Suisse et qui repartent par la France pour se mettre quelque part en quarantaine, tranquillement. Alors, s'ils passent dans le Grand Est, par le Sud-Est, c'est très compliqué puisque les chiffres augmentent aujourd'hui, de part et d'autre. Mais je comprends votre agacement parce qu'il n'y a pas d'autre.
Parce que il y a quand même encore deux poids, deux mesures. Enfin, je veux dire, moi, encore une fois plus, je me dis, mais on navigue. Enfin, je veux dire, il y a un amateurisme quand même qui se fait. Alors, certes, je ne pourrais pas être à la place du gouvernement. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, une fois de plus, c'est encore un amateurisme. Et je veux dire, c'est encore nous qui allons encore en payer les conséquences.
Bien sûr.
Je dirais, avec peut-être des écoles qui vont fermer, ce qui serait mais vraiment un drame, mais ce serait épouvantable. On a déjà mis plus d'un mois, là, au mois de septembre, pour remettre les gamins au travail. Il y a de nouveau une certaine forme, de mise en route. Et là, si jamais on est reconfiné, on sacrifie des générations d'enfants, des restaurateurs.
Par rapport à quelques irresponsables, justement, qui veulent se faire plaisir un petit peu sans penser aux autres. C'était passionnant, Sophie, parce que c'est vrai, je comprends cet agacement quand on entend de telles histoires et des touristes anglais qui étaient en Suisse et qui sont repassés par la France pour rentrer au pays, qui sont arrêtés en France pour respecter leur petite quarantaine après avoir pris beaucoup de plaisir. C'est pas comme si un joueur de foot très connu rentrait au pays, allait faire une fête et créer une boîte de nuit. Qu'en pensez-vous? 32-10. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Je pense que vous êtes supporter parisien ou pas?
Non, plus que ça, non. Je ne suis pas supporter de cette équipe en particulier.
Donc Neymar a raison de faire la fête pour vous?
Après, je pense qu'il est libre, majeur et vacciné.
Vacciné? Oui, peut-être pour d'autres choses. Pour la Covid, je ne sais pas encore.
Pour autre chose, oui. Après, il est libre, il est dans son pays. S'il respecte les fondamentaux de son pays, c'est le plus.
Il n'y a pas de mesure. Donc, c'est pas comme Noël à 6 personnes. Lui, c'est boîte de nuit à 150.
Oui, il est libre et responsable.
Oui.
Nous, en France, notre cher président de la République a bien fait réunir plus de 15 personnes dans son...
Avec
dans
des grandes distances réglementaires, oui.
Je pense pas qu'on soit en mesure de polémiquer là.
Vous voyez, avec l'exemple de Sophie et les touristes anglais, par exemple, de voir Neymar partir au Brésil, ça vous ennuie pas? Vous d'aller faire la fête et de revenir peut-être avec son copain Marquinhos, capitaine du PSG? Non, avec quelques symptômes.
Après, ils seront testés comme chacun quand ils rentreront ici. Et puis ils subiront les conséquences de leurs actes.
C'est fou parce qu'on est coincé dans cette émission entre les gens qui sont dans le raisonnable, vous voyez ce que je veux dire, et puis d'autres personnes comme vous, Kevin, qui ne jugent pas ce comportement presque irresponsable d'aller faire la fête aujourd'hui. On peut rester à une dizaine de personnes tranquilles, même une vingtaine tranquilles dans un 62 000 hectares, je ne sais pas combien, je ne connais pas la longueur du terrain. Et j'ai pas tout analysé chez Neymar, mais il y en a côté, il y a la liberté des uns, et puis je sais pas où elle s'arrête, cette liberté par rapport aux autres. C'est assez compliqué. Merci Kevin, on en reparlera du cas Neymar parce que je pense que ça a encore fait réagir. Est-ce qu'il va calmer le jeu comme disait Philippe Sanfourche, ou alors continuer dans sa démarche là-bas au Brésil? Merci d'avoir été fidèle RTL. Les auditeurs ont la parole, on revient demain évidemment dans la foulée d'RTL Midi, ça sera entre 13h et 13h30. Dans un instant, on va retrouver Jean-Alphonse Richard.